Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Bon jeudi tout le monde. Luc Fortin en compagnie de Kamal Salifou pour ce détour de 58 minutes, un détour qui, je l'espère, vaudra la peine pour vous. Je sais déjà qu'il en sera très bénéfique pour moi. Au lendemain de ce sommet Destination pour tous, qui avait lieu à Montréal du 19 au 22 octobre, pour ceux qui nous écoutaient en différé, organisé par Kéroul, on va aujourd'hui passer les prochaines minutes pour causer tourisme sous différents angles, avec notre bonne adresse, avec Espace pour la vie et les modifications apportées. Est-ce que ça fonctionne? Et surtout, est-ce qu'on va poursuivre l'accessibilité pour la rendre universelle, pas juste dans la cour des sens, mais vraiment partout dans cet espace pour la vie de la ville de Montréal? Nous allons également regarder des grilles et des façons d'évaluer que ce soit le tourisme loisir et certains espaces dans la ville de Montréal. Et c'est ainsi qu'on va démarrer cette émission, puisque vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'une politique municipale d'accessibilité universelle a été mise en place en 2011 à Montréal. Et on voulait savoir si cette politique-là a eu des impacts positifs sur l'accessibilité. On parle évidemment d'espaces urbains et cette question-là, ben, on va la poser à François Racine qui, justement, est allé répondre à cette question du côté du Destination pour tous au Palais des Congrès cette semaine. François, qui est professeur au département des études urbaines à l'UQAM. Bonjour, François. Ah, on commence avec Dominique. Bon, ben c'est parfait. Moi, j'avais ça inversé dans mes petites notes. C'est excellent. Donnez-moi 40 secondes, Dominique, juste changer mes petites notes. Dominique Lapointe, qui lui aussi est dans l'évaluation, cette fois du tourisme loisir ou loisir-tourisme. Il est chercheur à l'UQAM, travaille au conseil québécois du loisir. Vous avez mis de l'avant une méthodologie pour que ce soit municipalité, propriétaire, puissent éventuellement savoir si leur offre loisirs touristiques est accessible pour tous.
Oui, à vrai dire, petite correction, je suis professeur à l'UQAM, mais par rapport mon lien avec le Conseil québécois du loisir, c'est le partenaire avec lequel de la recherche pour développer l'outil de diagnostic de l'accessibilité aux loisirs et bon loisirs touristiques de par le fait même universel. Mm-hmm. Donc oui, l'objectif c'est de développer un outil d'animation sous forme d'une grille d'autodiagnostic qui permet à des milieux d'évaluer dans le fond leur accessibilité en lien avec quatre vecteurs qui sont l'accessibilité physique, temporelle, donc en lien avec le temps disponible, mais aussi le temps pour se rendre, se déplacer, le vecteur économique, hein, donc au niveau des coûts, et le vecteur culturel. Et à tout ça, nous, on a rajouté un autre élément d'évaluation qui est organisationnel, parce que dans le fond, il y a des questions dans la grille sur la culture de l'accessibilité dans l'organisation.
Pouvez-vous me donner un exemple du genre de question? Parce que j'aurais tendance à penser que ceux qui se lancent dans la business du loisir touristique ont déjà fait ces évaluations-là. Tu veux faire une étude de marché, tu veux pas te lancer dans quelque chose à l'aveuglette.
Oui, ben, à vrai dire, la différence, c'est que par rapport à une étude de marché, les gens vont évaluer, souvent au niveau des études de marché, l'accessibilité va être vue de manière beaucoup plus physique, hein? Donc la question physique et informationnelle, donc la question des rampes d'accès, de l'adaptation des équipements aux différentes clientèles. Nous, dans notre cas, ce que nous voulons, c'est une approche plus globale, hein? Donc, un exemple qu'on peut voir, c'est la question du transport. Hein, la question du transport en termes d'accessibilité, ben, ça a des. Mais il y a une question d'accessibilité physique. Est-ce qu'on est capable d'avoir accès au transport? Est-ce que le transport est capable d'avoir accès aux équipements, hein, la distance aussi? Il y a une question de temps. Hein, le temps que ça nous prend pour faire notre déplacement, mais aussi pour avoir accès à ce transport-là. Et le troisième élément, c'est économique. Donc, dans quelle mesure les coûts de ce transport-là vont limiter l'accès aux loisirs ou aux loisirs touristiques.
Mais Dominique, si je regarde cet exemple-là, évidemment que tout ça va varier selon la provenance du client. Si je viens d'Europe, si je viens de Montréal, ou si... dans le cadre d'une pourvoirie en Abitibi, je viens d'Amos, ben, ni le temps ni le transport coûteront la même chose.
Exact. Vous avez tout à fait raison et c'est l'originalité de la démarche c'est un work in progress. Mm-hmm. Nous, on est à la moitié du processus pour l'instant. C'est une recherche partenariale, donc on travaille avec des partenaires qui sont le Conseil québécois du loisir, le regroupement des centres communautaires et l'organisme de liaison et de transfert TIES, le territoire innovant en économie sociale et solidaire. C'est que nous, on veut essayer de garder une part de subjectivité territoriale d'une certaine manière pour que notre grille puisse se moduler selon certains critères en lien avec les espaces qui offrent du loisir ou qui sont des décideurs qui interviennent en termes de loisirs. Donc, vous savez, le type de question, ben, si on regarde la question du transport en commun, dépendamment, la question, on va demander si l'ensemble du territoire est desservi par du transport en commun, une partie du territoire ou s'il n'y a pas de transport en commun. Et tout dépendamment de qu'est-ce que les gens vont répondre, ben, ça va pondérer, ça va modifier la manière dont leurs autres réponses vont influencer le résultat final.
Ouais.
L'autre chose qui est bien importante à comprendre, nous, c'est un outil d'auto-évaluation qui s'avère aussi être un outil d'animation pour que les décideurs puissent réfléchir suite à leurs résultats, discuter et débattre de comment ils peuvent améliorer leur accessibilité et continuer d'évoluer dans la culture d'accessibilité. Donc, on n'est pas du tout dans un système qui met les gens, qui classe les gens sous forme ou les territoires ou les sites de services sous forme de palmarès en compétition l'un avec les autres. Hein? Puis, quand on parle de loisirs et de loisirs touristiques, il y a aussi toute la dimension entre les touristes versus les locaux. Et je vais vous donner un exemple qui est celui de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage, tout près de Rivière-du-Loup, qui est un pôle de villégiature dans le Bas-Saint-Laurent, hein, où est-ce qu'il y a des gîtes, des auberges, donc trois auberges, plusieurs gîtes, et où est-ce que les équipements de loisirs et de loisirs touristiques associés à cet espace-là sont pour la plupart sous la gouverne de la municipalité, mais qui se trouve à desservir en même temps les locaux, les villégiateurs qui, eux, passent l'été là-bas, et les visiteurs qui sont de passage pour quelques jours dans les auberges. Donc, on parle d'une piscine, on parle d'un parc pour les enfants, on parle de terrain de tennis, on parle d'un quai qui est un espace d'habitation, pas d'habitation, mais d'animation sociale, on parle d'une plage. Et donc, pour un milieu comme ça, de réfléchir à l'accessibilité aux loisirs, ça nécessite aussi de se poser la question des touristes qui fréquentent leur espace. Parce qu'en même temps, s'ils peuvent avoir le niveau d'équipement qu'ils ont, c'est aussi parce que la fréquentation des touristes amène des revenus qui permet à cette petite communauté-là d'avoir des équipements qui sont, je dirais, supérieurs à la moyenne des milieux ruraux similaires.
Est-ce qu'il y a cette grille d'évaluation une façon pour un propriétaire ou pour une municipalité de savoir si l'investissement au chapitre de la personne vivant avec des limitations fonctionnelles se rentabilise rapidement, pas du tout, ou au contraire, même on fait du profit?
Je vous dirais, dans la démarche telle qu'elle est dans le projet actuel, cette dimension-là de la rentabilité n'est pas inclue. on est dans une démarche d'amélioration de service. Et la dimension rentabilité, elle reste à l'intérieur parce que les cadres de référence des différents milieux et des différents, je dirais, propriétaires, quand on parle d'installations majeures, sont tellement variés que nous, on est dans une approche beaucoup plus sociale.
En même temps, on comprend que c'est souvent l'argument massue pour motiver à enjoliver ce loisir touristique.
Oui, mais du côté de l'approche qu'on a, qui, nous, est une approche informée par l'économie sociale, nous, on voit l'accessibilité universelle aux loisirs, mais aux loisirs touristiques de par le fait même, parce que ça fait partie de la grande famille du loisir, comme étant quelque chose qui fait partie, un facteur d'intégration sociale, un facteur de qualité de vie. Donc, on le prend vraiment du côté qualitatif au niveau social dans les éléments qui permettent à un humain de vivre pleinement sa vie de manière satisfaisante. Donc, c'est
Ça, c'est...
complètement un autre angle qu'un
Oui, c'est
angle,
ça.
je dirais, économique et rentable.
Donc, c'est un outil qui est indiqué pour celui qui se préoccupe du service et de la satisfaction du client, plus que, disons, sa pérennité. C'est ce que je comprends.
Oui, la dimension économique associée à ça, les rapports, tu sais, les évaluations coûts-bénéfices avec l'amélioration de l'accessibilité, il y a des méthodes là assez éprouvées au niveau des études de ça qui existent. Dans notre cas, nous, c'était beaucoup plus pour outiller, comme je disais, les milieux municipaux en grande partie, qui eux sont moins dans une logique de profit et les amener à développer une culture de l'accessibilité qui est multifactorielle, hein, avec nos quatre vecteurs et qui est aussi qui ne remet pas en question je dirais, l'importance du loisir. Donc, le loisir est un droit
Oui, c'est ça. Ça, c'est bien de le dire.
dans cette perspective-là. Et au Québec, on a eu ça, là, une déclaration de droit d'accès au loisir là, au début des années 2000, si ma mémoire est bonne.
En terminant, Dominique Lapointe, est-ce que cet outil-là est facile d'utilisation et est-ce qu'un organisme pourrait l'utiliser pour ensuite approcher les conseillers municipaux en leur disant, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il manque ça, ça, ça. Par contre, félicitations pour ceci, ceci et cela.
Écoutez, l'outil dans sa forme actuelle est en version bêta, est encore un peu difficile en termes d'usage, là. Par contre, on va démarrer après les fêtes la phase de mise à l'essai. Donc, on a une dizaine de milieux municipaux qui, eux, vont travailler avec, vont nous permettre de l'améliorer autant de son usage parce que c'est une grille informatique que dans son contenu. Donc, je vous dirais, quelque part au printemps 2015, elle devrait être disponible. Et via le Conseil québécois du loisir, cette grille-là va être, l'objectif, c'est qu'elle soit largement diffusée dans les milieux de pratique qui s'intéressent à l'accessibilité au loisir. On vise principalement le loisir municipal, les centres communautaires. Écoutez, si d'autres intervenants voulaient travailler avec cette grille-là, avec besoin d'adaptation ou non, il peut toujours y avoir de l'ouverture.
Oui, c'est ça, on peut la mettre à sa main finalement, selon
Exact.
notre réalité.
Exact.
Dominique Lapointe est professeur à l'UQAM. On le joignait du côté de Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, Dominique.
Merci.
On
Au revoir.
écoute Trio et ensuite on va causer avec François.